Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Dernière fin de semaine de septembre 2024, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3, Sherbrooke et Dechise 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Ce serait un euphémisme de dire qu'il s'est passé pas grand-chose. Non, c'est passé dans le monde de choses. À commencer par peut-être ce qui a fâché le plus de monde possible contre une seule. On avait parlé d'ailleurs à l'émission lorsque le premier jugement avait été rendu en mai l'année dernière. Au 31 mai 2023, on pouvait lire que la salle de spectacle La Tulipe à Montréal devait effectuer des travaux d'insonorisation afin de réduire le bruit résultant de ses activités. Selon une décision rendue le 15 mai 2023 par la Cour supérieure du Québec, le tribunal avait donné à ce moment-là partiellement raison à Pierre-Yves Baudouin, propriétaire d'un immeuble adjacent au La Tulipe. Les propriétaires du La Tulipe ont été condamnés à verser 1 500 $ en dommages et intérêts à Pierre-Yves Baudouin, qui a acquis l'immeuble littéralement à la porte à côté de la salle de spectacle en 2016. Il y a des locaux commerciaux et des locaux résidentiels, dont un qui serait habité par le propriétaire. Donc en 2023, il se plaignait déjà depuis 2017 des bruits en provenance des appareils sonores de la salle de spectacle et du bruit avec les cris, les altercations et toute forme de tapage des clients du La Tulipe, pouvait-on lire dans le jugement. Il n'y a pas de droits acquis à une nuisance, a affirmé le juge Azimoudin. Le bruit représente un inconvénient anormal et les défenseurs sont donc responsables. Donc, si on en est aujourd'hui en 2024, c'est entre autres en partie à cause du juge Azimoudin. La Tulipe n'avait toutefois pas perdu sur toute la ligne à ce moment-là, puisque Pierre-Yves Baudouin demandait la cessation pure et simple de tout bruit provenant de la salle de spectacle, en plus d'une somme de 40 000 $ pour les troubles et inconvénients qu'il allègue avoir subis jusqu'à ce jour à cause des bruits. La salle de spectacle, anciennement propriété de Gilles Latulippe, devait ajouter une surépaisseur acoustique au mur mitoyen dès que la Ville de Montréal lui accordera le permis pour effectuer les travaux. Il devra respecter par la suite une limite sonore établie par la firme Vinacoustique qu'elle avait mandatée pour évaluer l'ampleur du bruit entendu par les résidents et résidentes de l'immeuble de Baudouin et de faire des recommandations. Ça, c'était l'année dernière. Le premier son de cloche qui avait été émis, c'était en 2021. Publication sur les réseaux sociaux du La Tulipe qui mettait au grand jour cette poursuite-là de Pierre-Yves Beaudoin. Une erreur de l'administration, une erreur d'un employé de la ville résulte aujourd'hui à la fermeture du La Tulipe. Puisque, bon, le local adjacent, selon les versions, c'est pas seulement un local commercial qui a été reconverti en logement. Ce serait l'ancien costumier du La Tulipe. Donc, complètement logique que ce local-là communique avec la salle de spectacle, quand même qu'on passerait par la porte de dehors, ça reste quand même un local qui avait rapport au La Tulipe à une autre époque, ou du moins qui est vraiment le mur collé sur l'un à l'autre. Et ça a fait en sorte que, bon, malgré le jugement qui était en faveur de Beaudoin, on est allé plus loin dans le système judiciaire et finalement, le La Tulipe a perdu cette semaine. Donc, dû à l'erreur d'une seule personne qui n'aurait jamais dû permettre à Pierre-Yves Beaudoin de reconvertir un local commercial à la base en logement résidentiel qu'il dit habiter, et que c'est pas comme si la salle de spectacle était apparue comme ça par magie. Cette année, en 2024, le Théâtre La Tulipe, précédemment le Théâtre des Variétés, puis il y avait un autre nom juste avant les Variétés, et là depuis 110 ans, 111 ans même, si on va vraiment au début de la construction du bâtiment, ça fait 110 ans, 111 ans que cette bâtisse-là, qui abrite une salle de spectacle, a pignon sur rue. Et Pierre-Yves Beaudoin, en 2016, décide d'acheter la porte à côté pour se plaindre du bruit 6 mois plus tard. Théâtre Dominion, de 1914 à 1965, jusqu'à devienne celui des variétés sous la direction de Gilles La Tulipe, puis le La Tulipe, en hommage à Gilles. Donc, il achète la porte à côté d'un théâtre centenaire et trouve le moyen de dire que ça fait trop de bruit. Probablement que le 2 ans de pandémie, lui, a été le plus heureux au monde. Mais parce que la vocation d'une salle de spectacle, c'est évidemment d'y avoir du bruit à l'intérieur. Ben, ça a fait en sorte que la Cour d'appel a publié un arrêt suite à un jugement rendu en 2023, donc en plus d'insonoriser et de réduire le bruit au maximum. Parce que l'un des règlements sur lesquels Pierre-Yves Beaudoin se basait, c'était que les enceintes de la salle pouvaient faire du bruit, mais pas du bruit qu'on pouvait entendre dans la rue. Donc, un peu comme des haut-parleurs de restaurants ou que de la musique qui est diffusée, faudrait pas que cette musique de ces haut-parleurs-là, on les entende depuis la rue. Sauf qu'une salle de spectacle, quand même que tu fermes toutes les portes pendant un show, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont entrer et sortir, donc qu'il y aura du bruit sur la rue. D'ailleurs, en réaction, ce règlement-là devrait être revu par l'administration Plante de Valérie Plante, qui elle-même était surprise de la tournure des événements cette semaine. Puisque le 23 septembre, la cour d'appel ordonnait que la salle de spectacle La Tulipe cesse de faire tout bruit. Là, on n'était plus à réduire le bruit. Là, on était rendu à tout bruit devait être confiné, ou du moins qui ne devait pas être entendu en dehors de la salle de spectacle, ce qui est complètement absurde de demander à une salle de spectacle de ne pas faire de bruit. Et en ordonnant la cessation totale de bruit, le tribunal est allé plus loin que le jugement de mai 23. La cour d'appel qui s'applique aussi à la terrasse du bâtiment situé à la terrasse du La Tulipe sur l'avenue Papineau à Montréal. La cour d'appel explique son raisonnement en invoquant une erreur du droit du juge de première instance quant aux articles applicables du règlement sur le bruit à l'égard du territoire du plateau Mont-Royal. L'article 8 de ce règlement, voilà, sur lequel s'est basée la Cour supérieure pour rendre son jugement du 15 mai 2023, interdit l'émission de bruit qui dépasse un certain seuil maximal. Cela ouvre la voie à des travaux d'insonorisation qui permettraient de ramener cette émission au bruit sous le seuil. Or, selon la Cour d'appel, c'est l'article 9 du règlement, beaucoup plus contraignant, qui s'applique en l'espèce, puisque le bruit en question est produit au moyen d'appareils sonores, comme les haut-parleurs d'une salle de spectacle. Dans ce cas précis, le bruit est prohibé dès qu'il est audible à l'extérieur de la salle d'où il provient, peu importe son niveau. Ce constat peut se faire par simple identification de bruit sans besoin de recourir à un sonomètre, ajoute la Cour. Donc, parce que la salle fait du bruit, il ne faut pas qu'elle n'en fasse. Mais évidemment, ça ne se peut pas, une salle de spectacle qui ne fait pas de bruit. Notre équivalent à Sherbrooke, la Granada, c'est quelqu'un qui achète, allons-y fictivement, qui achète le Bock et bière juste en face du Granada pour reconvertir la bâtisse en logement résidentiel et se plaindre du bruit du voisin d'en face. Quand le théâtre Granada, ici à Sherbrooke, n'existe pas depuis 2 semaines. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment à Montréal, le La Tulipe, suite à cette décision-là de la Cour d'appel. Et ça, c'est le bout absurde du jugement. La Cour d'appel ne rejette pas la légitimité des activités du La Tulipe. Mais pour qu'elle puisse continuer, il faudrait qu'aucun bruit distinct du bruit ambiant ne soit perceptible de l'extérieur de la salle. Et ça, cette Cour d'appel-là, probablement ceux qui ont rendu le jugement également de ne pas fumer sur scène d'un coup qu'une femme enceinte de 8 mois serait en présence de la dite cigarette, donc tout produit est interdit sur scène, ben fait à croire que oui, la salle de spectacle a le droit de vivre, mais il ne faut juste pas qu'elle fasse de bruit. Ben c'est ce qui s'est produit le lendemain, le 24 septembre. Le La Tulipe a dit fermer ses portes temporairement. Parce que ça se peut pas. Des spectacles qui étaient prévus dans les prochaines semaines ont déjà commencé à être soit remboursés ou à être relocalisés. Parce que le La Tulipe ne peut pas se conformer à une ordonnance de la Cour de ne pas faire de bruit. C'est une salle de spectacle. Et ça, parce que l'employé de la Ville de Montréal, en donnant un permis résidentiel à Pierre-Yves Beaudoin, a merdé. Parce que Pierre-Yves Beaudoin est officiellement la personne la plus détestée dans la culture à Montréal et la culture en général, aime pas le bruit en étant le voisin immédiat d'une salle de spectacle, je le rappelle, centenaire. Tout ça dans un jugement de la Cour rendu le 23 septembre, 10 ans après la mort de Gilles La Tulipe, qui était décédé le 23 septembre 2014. Et ça, je pense que l'ironie ne pouvait pas mieux tomber. En disant au théâtre de feu Gilles Latulippe, tu dois mourir la journée que Gilles Latulippe est décédé 10 ans auparavant. Et pour la blague et pour le lol, il y a une manifestation en soutien au Latulippe qui a été organisée avec un grand tintamarre jeudi soir dernier, cette semaine, qui a été organisée. Et sur certaines photos, on pouvait distinguer un certain MC Gilles d'Éric Ouellet, donc à suivre peut-être dans la prochaine, très certainement dans la prochaine édition d'Infoman jeudi prochain, qu'il a assisté à la manifestation. Mais pour un mauvais voisin avec une erreur de la ville, fatale pour l'entièreté d'une salle de spectacle, ne serait-ce que ça, c'est d'une absurdité la plus complète. Et ce faisant, d'autres salles de spectacle pourraient se voir attribuer le même... C'est déjà arrivé. C'est pas la première salle de spectacle qui ferme à cause d'un voisin chiant qui décide de faire son rôle de voisin désagréable pour faire fermer un espace de culture centenaire. D'une absurdité complète, en espérant que des avocats plus sympathiques voudraient reprendre le dossier en étant solidaire avec le Latulippe, parce que justement, en plus, les frais d'avocat commencent à être exorbitants dans cette cause-là. Parce que pour l'instant, espérer qu'une salle de spectacle continue à produire, mais dans le silence, ça ne se peut pas. Donc, pour l'instant, la salle Latulippe à Montréal, Plateau Mont-Royal, est réduite au silence à cause de Pierre-Yves Beaudoin. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite de ce deuxième service cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et Chiz 94.3 à Québec. Lumière, qu'on vient d'entendre.
Pour le show.
Oh, il restait une petite phrase cachée. Lumière, qu'on vient d'entendre en musique avec Glam. Sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Sans surprise, du côté de Québec, cette fois-ci, on se promène de ville en ville. Les billets pour les matchs des Kings de Los Angeles ne se vendent pas. Souvenez-vous, le gouvernement Legault trouvait que l'adage du pain et des jeux en était un bon, a décidé de donner pour les jeux, pour payer pour le sport professionnel, pour qu'ils viennent faire des matchs hors concours ici au Centre Vidéotron à Québec. Et 8000 billets sont encore à trouver preneur en date de jeudi cette semaine. Plus de 20% des billets en vente n'ont toujours pas trouvé preneur. Bon, à quel point ce monsieur-là a la tête dans le sable? C'est surprenant, dit le directeur général de la pratique d'évaluation des franchises professionnelles chez EJW Eco, Drew Dorwheeler. Il y a de fervents partisans à Québec qui attendent depuis longtemps le retour de la Ligue nationale de hockey. On aurait dû avoir des salles combles. Tête dans le sable. Des deux matchs qui seront disputés par les Kings de Los Angeles, c'est celui impliquant Boston qui a fait meilleure figure à la billetterie. Aux dernières nouvelles, il y avait seulement 3000 billets encore à trouver. 15% de la capacité de l'amphithéâtre des 18 259 places. À l'inverse, la Floride attire beaucoup moins. 30% des sièges n'avaient toujours pas été vendus. Un petit peu moins de 5 000 billets. Cette visite des Kings, qui sont sans domicile jusqu'au début de la saison en raison des rénovations de l'amphithéâtre au cœur de Los Angeles, s'est transformée en controverse dès que ça a été annoncé en novembre dernier. Parce que oui, il faut le rappeler, les Kings de Los Angeles viennent sur le bras du gouvernement Legault à Québec, mais de toute façon, ils avaient besoin de salles pour ben, de salle d'aréna pour se produire parce qu'il n'en avait pas. Donc, techniquement, les Kings de Los Angeles auraient pu payer Québec, auraient pu payer pour louer le centre Vidéotron parce qu'ils n'ont pas de place pour jouer. Mais non. Éric Girard, ministre des Finances, trouvait ça judicieux de leur offrir entre 5 et 7 millions de dollars pour que des joueurs millionnaires viennent jouer au hockey des matchs qui comptent pas contre les Bruins et la Floride. Bruins, un peu plus. La Floride, ça a l'air, ça vend pas. Quand en plus, Canadiens avaient déjà dit qu'ils voulaient eux-mêmes venir à Québec faire des matchs. Mais non, on va faire venir l'équipe de Los Angeles en se faisant croire que oui, les gens vont venir voir l'équipe administrative québécoise des Kings de Los Angeles. En tout cas, on espère des bénéfices grâce aux 5 à 7 millions de change qui va être donné aux joueurs pour, on ne sait pas, payer à souper. Tu veux qu'ils fassent quoi avec 5 millions à gang? Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un montant pour la gang au complet. Payer les billets d'avion en classe économique, il n'y a aucune justification du gouvernement à mettre de l'argent autre que de penser que grâce à ce 5 millions-là, il va y avoir des retombées économiques tellement extraordinaires pour la ville de Québec. Peut-être. Mais reste quand même que malgré la subvention de 5 à 7 millions, l'intérêt n'est pas là. Il reste 7-8 000 billets à vendre. Le 5 millions a déjà été versé à Gestev, une filiale de Québécois, pour financer l'événement. Stratégie qui contraste avec des endroits comme Halifax, Wichita et Independence au Missouri, qui, eux, avaient tous déjà accueilli un match de la NHL avant le coup d'envoi du calendrier régulier sans payer aucun argent. Les équipes ont été gratis à Halifax, Wichita au Kansas et à Independence au Missouri. Gratis. Et nous autres, collectivement, on a donné 5 millions pour faire venir deux games de hockey qui comptent pas. Avant même de faire son entrée dans la Ligue de juin dernier, Salt Lake, en Utah, avait été en mesure de conclure une entente avec les Kings pour des parties préparatoires non subventionnées. Le gouvernement Legault a défendu à l'époque sa décision en affirmant qu'il s'agissait d'un message envoyé à la LNH, qu'on est bonasse et qu'on vous donne de l'argent gratis, la LNH, pour lui rappeler que le marché québécois existe. Oui, oui. On est prêt à payer pour des games qui comptent pas, donc donnez-nous une équipe. C'est sûr, c'est un plan sans faille. Pour le professeur André Richelieu de l'ESG UQAM, spécialisé dans le marketing de la gestion du sport, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Après avoir subventionné la construction de l'aréna de le centre Vidéotron, alias le gros cendrier et ou le gros détecteur de fumée, on se résout à financer des équipes professionnelles pour qu'elles daignent y jouer des parties préparatoires, dit-il. Le public a raison de tourner le dos et aurait pu le faire davantage. Depuis le début du calendrier préparatoire de la LNH, les matchs disputés dans les marchés de hockey, dans les marchés de la Ligue de hockey comme Abbotsford en Colombie-Britannique, en Ontario, en Californie, sont pratiquement à guichet fermé. Ces deux amphithéâtres qui accueillent les clubs-écoles, on n'est même pas dans des games professionnels, parce qu'en plus, les Kings de Los Angeles... Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Pourquoi on ne prenait pas Canadiens qui viennent au centre Vidéotron? Parce que les gros joueurs ont la possibilité de ne pas venir. Fait qu'Éric Gérard aimait pas ça, que peut-être Cole Caulfield n'allait pas être là à un match préparatoire qui compte pas. Donc, il s'est dit qu'en donnant 5 millions aux Kings de Los Angeles, ils allaient certainement nous envoyer tous leurs gros noms. Ben oui, ben oui. Et évidemment, les Kings de Los Angeles comptent un joueur, peut-être deux maximum québécois. Fait que c'est pas non plus comme s'il y avait 8 joueurs québécois qui revenaient à la maison jouer au hockey. Les clubs-écoles, comme je le disais, des Canucks et des Kings sont de plus petite taille, leur capacité de quelques 10 000 places, mais font ça le comble tout de même. Mercredi, les Panthers affrontaient le Lightning à Orlando, dans l'amphithéâtre qui abrite le Magic d'Orlando de la NBA. Avant le début de la rencontre, tous les billets étaient vendus, mais les quelques milliers de sièges disponibles se trouvant dans les 17 353 autres places n'étaient pas particulièrement vendus. L'aréna est située à mi-chemin entre deux, environ les domiciles des deux clubs floridiens. Donc, des pertes sont à prévoir au centre Vidéotron. Il faudra attendre que l'événement soit passé, affirme sans surprise le cabinet d'Éric Gérard. On assure que dans tous les cas, les subventions ne pourront pas aller au-delà de 7 millions promis. Donc en plus, surprise, on ne redonnera pas 2 millions de plus. Selon le contrat conclu entre le ministre Gérard et Québécois, des restrictions ont été imposées sur ce qui peut être comptabilisé comme des revenus. Donc toutes les recettes qui seront générées pour ce qui gravite autour des loges du centre Vidéotron ne seront pas comptabilisées dans le calcul visant à déterminer ce qui devra être épongé par Legault. Le paiement final de 2 millions s'effectuera une fois les rapports préliminaires comptabilisés, les dépenses rapports préliminaires comptabilisant les dépenses de l'événement auront été remis à Éric Gérard. En échange, si des pertes sont inférieures au montant maximal, techniquement, Québécois redonnera la balance du 5 millions si jamais il y avait réellement du profit qui était engrangé. Donc, à suivre, François Legault aime beaucoup les coups de poker de ce temps-ci, ce qui lui a fait dire, ou pas, ou en tout cas, il s'en souvient pas, de ne pas voter pour Justin Trudeau et mettre Pierre Poilievre en scène. On en reparlera de François Legault qui tente de rétro-pédaler cette semaine également. C'est pas encore une bonne semaine pour le gouvernement Legault. Vous écoutez le 88.3 à Sherbrooke, c'est FAQ et chez 94.3 à Québec. De retour au deuxième service classique ici à CFAQ, entre autres. On a créé un monstre, le corps est lourd, qu'on vient d'entendre, en musique. J'aimerais dire que ça va s'améliorer, mais non, vraiment pas. Ce qui était du côté de Salt Lake pour les games non subventionnés des Kings de Los Angeles, c'est survenu trois mois, après que Éric Gérard annonçait qu'il donnait 7 millions. L'entente avec le Salt Lake s'était faite gratuitement en février 2024. Donc, ça rajoutait un clou dans le cercueil que c'était une mauvaise décision. Et on apprend ce matin, ça, j'ai failli manquer ça, en plus des deux matchs préparatoires à Los Angeles, François Legault, son gouvernement, a décidé d'octroyer un montant supplémentaire pour accueillir encore plus de hockey au Québec. 480 000 $ ont été mis sur la table pour que la LNH dispute en février à Montréal la nouvelle confrontation des quatre nations, soit le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande. Les quatre premiers matchs de la confrontation seront disputés au Centre Bell et les trois derniers, dont la finale à Boston, ont été annoncés en juin dernier. La confrontation remplace le week-end des étoiles de la LNH qui a eu lieu à Toronto la saison dernière. L'événement n'avait pas été subventionné par Doug Ford. Doug Ford, qui se fait un mandat de mettre de la bière à une pièce, mais c'est de la bière pas buvable, n'a pas cru bon, lui, payer pour du hockey dans sa ville, dans sa province. François Legault, lui, trouve que c'est judicieux de donner 500 000 piastres à la LNH encore une fois. En 2009, Montréal avait accueilli le week-end des étoiles sans dépenser une scène dans le fonds public. Cette année, l'argent a été avancé par Québec par l'intermédiaire d'un programme de soutien aux événements touristiques ponctuels de Caroline Proulx. Caroline Proulx, qui a déclaré cette semaine, ben oui, on va en donner encore de l'argent à du sport professionnel. C'est le fun. Mon objectif, c'est d'avoir de grands événements sportifs internationaux américains, particulièrement pour drainer les touristes américains, explique Caroline Proulx. Je ne peux pas me payer une campagne promo à coût de milliards pour positionner le Québec. À 480 000 piastres, j'ai une extraordinaire publicité d'image à Montréal. Caroline Proulx estime que grâce à son 500 000 piastres, elle fera entre 20 et 30 millions de dollars en retombées économiques à Tourisme Montréal. On dit 30 millions également. Parce que Caroline Proulx aime ça gambler, elle, avec. Ce qui lui a fait faire en sorte également que 6,5 millions de dollars des contribuables ont également servi à faire venir du golf sur l'île Bizarre du côté de la grande région de Montréal. La PGA va se déplacer grâce aux 6,5 millions pour la Coupe des présidents qui aura lieu cette fin de semaine à Montréal grâce à Caroline Proulx et François Legault qui aiment ça, gambler l'argent des Québécois parce que Nordvolt, ça va pas bien. Caroline Proulx affirme haut et fort que c'est la meilleure carte de visite pour la marque du Québec à l'international. Oui, oui. On paye pour des affaires qui se feraient gratis. J'ai accès à la planète. Et dans le cas de la Coupe des présidents, c'est 6,5 millions pour 71 millions en retombées économiques. Qu'elle dit! 45 000 touristes hors Québec qui viennent à Montréal et qui génèrent des dépenses touristiques. Qu'elle dit! Elle martelait lorsqu'elle a été confrontée à l'Assemblée nationale sur garrocher l'argent des Québécois à des millionnaires. La ministre souhaite s'associer encore davantage à des événements sportifs de grande diffusion dont les droits de télédiffusion sont chèrement payés et se vendent sur les plateformes. Parce que oui, les gens qui vont pirater les matchs de golf en fin de semaine vont se dire « Ah, quel beau décor d'arrière-fond que peut être le Canada. Je vais aller au Canada grâce à ce match de golf que j'aurai regardé en fin de semaine. » Oui, oui, Caroline Proulx. La presse a révélé que le tournoi a financé à hauteur de 9 millions par les contribuables, 6,5 par Québec et 2,5 par le fédéral. Ça semble anodin. Ça semble être des petits montants. Parce que c'est juste 6 millions qui pourraient faire 10 fois son chiffre. C'est juste 7 millions à Québec. Une fois que Vidéotron va s'être payé, ils vont peut-être en redonner. C'est juste des petits montants. Si au moins c'était juste des petits montants. Mais Éric Gérard va faire un déficit dans les milliards en disant qu'il n'y a plus d'argent et ils mettent ça en plus sur le fait qu'ils doivent payer les professeurs plus cher. Donc, à cause de meilleurs salaires, on fait un déficit record. Dans l'ère récente, on fait un déficit record à inflation ajustée. Mais on a quand même du change à garrocher. On a quand même du 6 millions à donner là. Du 270 millions à donner à Nordvolt qui va probablement fermer avant même le début de l'irrigation du dernier mur de l'usine en Montérégie. Parce que ça va mal du côté de Nordvolt en Suède. On est à dire aux employés qui doivent se serrer dans les dépenses et on en met d'autres à la porte. Si la compagnie mère ne va pas bien, comment est-ce que ces projets à l'international qui sont à peine débutés, vont bien aller. Et ça, c'est le pari que prend François Legault en disant « Vous me remercierez dans 20 ans quand l'usine va marcher et qu'on va faire du profit. » Il prend le pari, il prend le risque Il mise au poker all-in que ça va se faire quand en ce moment, l'adversaire a à peine une paire dans son jeu. Il est en train de les perdre. Il est en train de perdre sa game en ce moment. Parce qu'il a expansionné trop rapidement. Et en même temps, ça fait sonner une cloche. Lorsque Nordvolt, on était encore en train de chicaner avec eux autres à savoir si c'était un bon projet ou non, voulait devancer la construction pour arriver plus rapidement. Parce que probablement que son propre calendrier était en train d'être bousculé parce que justement, les liquidités ne sont pas bonnes. Ce qui a fait dire, entre autres, dans la conférence de cette semaine à François Legault, que vous me remercierez dans 20 ans quand ça va fonctionner, tout en essayant d'adoucir le tir lancé la semaine dernière en disant que le Parti québécois devrait dire au Bloc québécois de défaire Justin Trudeau parce que François Legault n'aime pas Justin, qui ne lui donne pas 100% des pouvoirs en immigration au Québec. Sauf que la partie immigration au Québec, ça, il l'a rajouté cette semaine. Il disait que c'est à cause de ça que le Bloc québécois devait défaire Justin Trudeau. Or, à moins que l'entièreté de la planète politique se soit trompée la semaine dernière, lorsque François Legault, au détour d'un corridor, est allé en disant tout simplement que le Bloc devrait défaire Justin, ça prend des élections au fédéral. Il n'a jamais ajouté de raison. Il a tout simplement dit une deuxième fois, après avoir dit, la semaine dernière, je ne me souvenais pas de son nom, mais après avoir dit Kerin O'Toole, les Québécois devraient voter pour les conservateurs la dernière fois. Et aux surprises, les Québécois n'ont pas écouté François Legault à l'élection puisqu'ils n'ont pas fait de score extraordinaire au Québec. Ils ont maintenu leurs acquis tout simplement. Mais François Legault, pour la deuxième fois, après les multitudes déchirages de chemises que Justin s'ingère dans la politique provinciale, est allé dire quoi faire au Bloc québécois en s'ingérant au fédéral. Mais il disait ça parce que l'immigration, pas juste pour avoir les conservateurs, non. C'était parce que Trudeau ne nous donne pas ce qu'on veut. Ah, ça a repris une semaine quand même avant qu'il arrive avec cette explication-là soudaine en point de presse. Il aurait pu corriger le tir la semaine dernière. Non. Il a attendu une semaine. Après qu'il se soit rendu compte que ça ne faisait pas bouger l'aiguille du côté positif de la chose. Non. Je disais pas éliminons Justin Trudeau. Je disais restreignons Justin parce qu'il ne me donne pas ce que je veux. Encore une fois, il faudrait que l'entièreté de la planète politique québécoise se soit trompée pour qu'effectivement, c'était le message que François Legault avait envoyé la semaine dernière. On s'arrête là-dessus. Au retour, la conclusion de l'émission de cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Lydia Gabinski et les louanges qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Ça a été très politique cette semaine. C'est des choses qui arrivent quand même, mais j'avais le goût de finir avec une controverse en même temps cette semaine. Controverse, façon de parler, et en même temps, ça fait quand même sourire. Ça fait 4 ans. Oui, il y a une petite recrudescence en ce moment, mais ça fait 4 ans que le plus gros de la COVID-19 est passé. On se souviendra que des contraventions avaient été données à des gens un peu trop... À des gens qui n'aiment pas suivre les règles et qui décidaient de porter tout de même le masque, ne pas porter le masque dans des lieux publics, se sont vus remettre des contraventions entre 2020 et 2022 pour non-respect du port du masque, faisaient des manifestations contre le masque, tout en ne le portant pas et en récoltant des contraventions supplémentaires. Les gens qui organisaient ces manifestations-là, ces rassemblements-là qui n'avaient pas le droit de se tenir pendant le plus gros du confinement, promettaient à leurs ouailles, ces gens, les organisateurs promettaient que les contraventions allaient tomber, qu'ils allaient aller en cour supérieure, en cour suprême, pour faire annuler l'étiquette, pour faire annuler les contraventions qui ont été données, que les gens n'allaient pas avoir à payer les montants qu'ils allaient engranger, donc qu'ils pouvaient venir manifester en toute quiétude parce que, selon leur propre compréhension, et ça c'est important là-dessus, selon leur auto-compréhension des lignes et des textes de loi, y allait trouver le moyen de s'en sortir. Et cette semaine, on a appris que ils vont être pognés à payer leur ticket. La Cour suprême, comme je le disais, du Canada a refusé d'entendre la cause des Québécois qui voulaient faire reconnaître que la COVID-19 ne constituait pas une menace à la santé publique. Donc, eux, leur combat était de dire que la COVID-19 n'était pas un problème au plus gros du confinement. Rien que ça. Évidemment, la Cour suprême n'avait pas de temps à perdre non plus. Les cinq personnes voulaient aussi que ceux qui ont reçu des contraventions en lien avec les mesures sanitaires soient remboursés. La requête initiale... je nomme même pas, ils n'en valent pas la peine. La requête initiale a été déposée devant la Cour supérieure en avril 2021, soit pendant la pandémie de COVID-19. Les cinq demandeurs poursuivaient le procureur général du Québec et la direction de la santé publique. Donc, on peut lire François Legault, Horacio Arruda et Christian Dubé sur la mise en demeure en question. Le procureur général du Québec avait demandé le 13 octobre 2022 que la demande soit rejetée puisque les mesures sanitaires avaient été levées en juin 2022. Dans un jugement plus tard daté de juin 2023, le juge de la Cour supérieure, Michel Apinsonneau, avait donné raison au procureur général du Québec que ça va toujours bien faire un an, on peut passer à d'autres choses. Merci, bonsoir. Mais les cinq demandeurs qui ont ramassé un peu plus d'un million de dollars de la part justement des gens qui se disaient éveillés et qui disaient avoir compris la gimmick, auront perdu l'entièreté de leur investissement. Donc pour eux, le coup de poker a été fatal. Les cinq demandeurs avaient choisi de faire appel de cette décision et leur demande avait été rejetée le 23 janvier dernier. C'est après ce rejet-là, donc au début de cette année, que finalement, ils ont décidé de monter à la Cour supérieure, à la Cour suprême du Canada pour que finalement, leur doléance soit entendue à quelque part dans le système judiciaire, si ce n'est pas québécois, canadien. Et finalement, pendant cette période... ça a été officiellement rejeté cette semaine. Il n'y aura donc pas de cause. Et les gens qui ont accumulé, pour certains, des fois, des montants qui dépassent les 300 000 $ devront se verser cet argent-là ou aller faire un petit peu de temps de prison. Pendant la période qu'on pouvait lire dans la poursuite, c'était pour contrer les mesures qui avaient été décrétées le 13 mars 2020 jusqu'en juin 2022. Plusieurs mesures avaient été mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19 au Québec, dont les couvre-feux et le port du masque obligatoire. De nombreux Québécois qui n'ont pas respecté ces règles se sont vus ainsi remis des contraventions par les policiers qu'ils ont dû payer pour la plupart en se faisant à croire, ou en se faisant dire plutôt par ces cinq individus-là que ça allait être remboursé un moment donné, eh bien, c'est officiel, il n'y aura pas de remboursement. Vous avez tout fait ça pour rien, en plus de gaspiller un peu plus d'un million de dollars à gagne. Voilà, c'est ce qui complète l'émission de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut!